Épître aux Éphésiens au chapitre 3, et nous sommes parvenus la dernière fois au verset 13. Alors nous allons lire cette fin de chapitre. Un texte qui est un très beau texte biblique. Et je dirais que c'est le texte qui, dans cette épître, exprime l'espérance. L'espérance. Ah, quelle espérance nous avons. Alors, si nous sommes un peu désespérés, découragés, attristés, affligés, dans le doute, dans la tourmente. L'Épître aux Éphésiens dans son ensemble, mais ce passage en particulier va exprimer quelle espérance celui qui est en Jésus-Christ possède. Verset 13, aussi. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous voulons prier. Seigneur, nous adressons à toi ce matin afin que tu ouvres notre cœur pour comprendre l'espérance que tu as exprimée dans ce texte inspiré de toi qui vient de toi pour notre encouragement. Et nous voulons ce matin, Seigneur, que vraiment tu parles au plus profond de nos cœurs par ton esprit, afin que nous saisissions l'espérance à laquelle tu nous as appelés, et qu'elle puisse devenir dans notre vie une réalité effective, plutôt qu'un idéal qu'on n'atteint jamais. Seigneur, tu es celui qui fortifie, celui qui relève, tu es celui qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on demande, ce qu'on pense. Alors ouvre nos cœurs pour le saisir, pour le comprendre et pour le vivre ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais commencer par un petit résumé de l'espérance qui ressort de ce très beau passage. C'est un peu, si vous voulez, j'ai repris quelques versets, je les ai reformulés et je les ai adaptés, j'en ai tiré, je dirais, un enseignement en 5 points. Alors, 5 points d'espérance dans ce texte. Ce texte vous dit, premièrement, vous pouvez ne pas perdre courage à cause des afflictions. Oui, on peut ne pas perdre courage à cause des épreuves. Deuxièmement, il me dit, ah, tu peux être puissamment fortifié dans ton être intérieur par l'Esprit de Dieu. Tu peux recevoir cette force puissante de la part de l'Esprit dans ce qu'il traverse. Troisièmement, il me dit, tu peux expérimenter toute la différence que ça fait quand Christ habite dans un cœur. Tu peux vivre les afflictions, mais quand tu les vis avec Christ qui habite dans ton cœur, tu peux expérimenter toute la différence que ça fait. Quatrièmement, il me dit, tu peux ressentir en toute plénitude combien tu es aimé de Dieu en Jésus-Christ. Tu es aimé de Dieu et tu peux le ressentir dans toute sa plénitude. Et puis enfin, ce texte me dit, tu peux compter. Tu peux compter sur l'œuvre puissante que Dieu fera en toi, pour toi et par toi. Attends-toi à être étonné. Alors, avant de nous lancer dans le détail de ces espérances, revenons un petit peu au contexte de cette lettre d'espérance, de ce message d'espérance qui est adressé aux Éphésiens au travers de ces versets. Ces versets, on peut les relire ensemble, certains. Je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions. Verset 16. Qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Verset 18. Que vous puissiez comprendre. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et enfin le verset 20, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Alors quel est le contexte? L'apôtre Paul a été mis en prison en raison de sa foi. Pas parce que c'était un homme malhonnête, qu'il avait commis un délit, qu'il est en prison. C'est parce qu'il est chrétien et qu'il annonce l'évangile et ça dérange. Et l'apôtre Paul est mis en prison. Et ce n'est pas le seul. Il y a eu plusieurs dirigeants d'église qui ont été martyrisés, parfois exécutés, emprisonnés. Et dans l'ensemble, l'église et persécuté. Et les Éphésiens, les chrétiens d'Éphèse, sont un peu dans la tourmente parce que Paul, qui est venu les enseigner, qu'ils ont connu le libre, le voilà dans les chaînes, le voilà emprisonné à Rome. Et ils disent, voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que comment ça se fait qu'on est persécuté comme ça? Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que l'Église va survivre? Est-ce que la foi chrétienne ne va pas s'éteindre? Est-ce que l'Église ne va pas dépérir et disparaître? Est-ce que on ne mène pas un combat pour rien? Est-ce qu'on s'est trompé quelque part? On a fait quoi ce travers? Et ils sont dans le doute. Un petit peu comme si le fait que l'apôtre Paul soit en prison et que les chrétiens soient persécutés soit un signe de déclin. Ils disent peut-être, oula, on est sur la pente descendante. Nous, on pensait que ça allait aller dans le bon sens, tout ça, ça allait être chouette, harmonieux, impeccable. Un bel espoir, et puis qu'est-ce qui se passe là? On a des afflictions, on a des problèmes, on rencontre des difficultés, on est contraint, les apôtres se viennent emprisonner. Effectivement, l'apôtre Paul est emprisonné, il sera relâché cette fois. Puis il sera emprisonné à nouveau une deuxième fois, il sera exécuté. Alors, les chrétiens ici sont sans doute profondément découragés. Un peu dubitatifs. Qu'est-ce qui se passe? Dans le doute. Peut-être même certains sont au bord de la dépression. Alors Paul, inspiré par l'Esprit, leur écrit cette belle lettre, dont le message d'espérance atteint sa plus belle expression dans le passage d'aujourd'hui. D'abord, avant de leur écrire ce passage, il y a les chapitres qui précèdent. Et Paul a déjà exprimé deux choses fondamentales à ces chrétiens un peu dans la tourmente. Premièrement, à titre individuel, il leur a exposé à quelle richesse spirituelle le chrétien a accès dans les lieux célestes. Il leur a exprimé comment le chrétien a accès à cette richesse que c'est la dynamite dès lors qu'il s'assoit avec Jésus. Quand le chrétien s'assoit avec Jésus, il s'assoit avec lui dans les lieux célestes et il entre dans cette chambre des trésors spirituels. Et que nous avons en Jésus-Christ lorsque nous nous asseyons avec Jésus, c'est de la dynamique pour notre quotidien. Et puis deuxièmement, il leur a exposé, c'était la prédication de la semaine dernière, le mystère de l'Église, le but de l'Église. Et nous nous souvenons de cette fracture de l'humanité, une humanité divisée, les riches, les pauvres, les beaux, les moches, les Français, les Arabes, les Gitans, les Sénégalais, tout ce que vous voulez, avec nos frontières qui fracturent, les intelligents et les moins intelligents, les cultivés et les moins cultivés. Et on peut continuer tout ce qui fracture l'humanité et qui fait que les hommes sont séparés les uns des autres. S'affrontent les uns les autres. Sont en conflit. Y compris dans les familles, y compris dans les couples. Et ce qu'il y avait au cœur de Dieu, c'était de réparer ces fractures. Ce qui est brisé, c'est de recoller. Ce qui est divisé, c'est de rassembler. Et comment Dieu va-t-il faire cela? Comment va-t-il exprimer dans le monde ce message de réunification? Par l'Église. Et l'Église, c'est cet étendard. Comment est-ce que des gens qui normalement n'ont rien à faire les uns avec les autres, qui ne sont pas du même milieu, qui ne sont pas de la même culture, qui ne sont pas de la même histoire, peuvent d'une seule bouche louer le Seigneur ensemble et devenir des frères et des sœurs. Et voilà comment dans une église, on peut même être assis à côté de quelqu'un qui a fait de la prison alors que moi j'en ai jamais fait et que tout est possible. Tout est possible. Pourquoi? Parce que chacun a donné sa vie à Jésus-Christ et passé par la repentance. Et qu'il est rentré par cette porte en disant les fractures, c'est pas forcément que les autres. Les fractures dans l'humanité, les divisions, les problèmes, les conflits, ils commencent par moi et par mon péché à moi. Seigneur, je te confesse mon péché. Je suis un pécheur devant toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton pardon. Entre dans ma vie. Je veux te suivre. Et chacun de ceux qui ont dit cela sont devenus un membre du corps de Christ. Et ce corps de Christ, c'est l'Église. Alors, oui, Paul a rappelé aux Éphésiens comment l'Église est le moyen conçu de toute éternité par Dieu pour réunifier une humanité terriblement fracturée. Et ces deux choses sont importantes, parce qu'elles permettent aux chrétiens d'abord de voir le bien fondé de leur engagement dans la vie d'église. Ils disent, ah oui, moi je fais partie de l'église d'Éphèse, moi je fais partie de l'église d'Arles, oui, je suis devenu membre du corps de Christ, je m'engage dans la vie d'église, j'y suis dans l'église. Mais est-ce que c'est bien fondé ou est-ce que c'est mal fondé? Parce que quand on voit l'église persécutée, agitée, des gens arrêtés, des gens exécutés, comme encore aujourd'hui dans bien des points du globe terrestre, on se dit, est-ce que j'ai raison? Est-ce que, c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'il y a une finalité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est porté par l'Église qui mérite qu'on passe quand même par la persécution? Paul dit oui. Vous voyez cette humanité fracturée, déchirée, les hommes et les femmes, les vieux, les jeunes, les nations qui se déchirent, les familles qui se déchirent, Dieu veut réunir. Dieu veut recoller. Dieu veut réparer. Et l'Église, c'est le moyen par lequel il le fait. Alors oui, on a un beau message à porter dans le monde. Un bel exemple à montrer. Un bel exemple comment les hommes et les femmes qui se déchirent en Jésus-Christ peuvent se rencontrer, peuvent apprendre à s'aimer, peuvent se pardonner les uns aux autres, peuvent devenir les frères et les sœurs, alors que tant et tant de choses les séparaient. Alors les Éphésiens, Paul leur a rappelé le bien fondé. Vous avez bien raison d'être engagés dans l'Église. Non, c'est pas pour rien. Non, c'est pas en vain. Et puis, quand il leur a rappelé qu'ils avaient accès à toutes les richesses en Jésus, c'est important pour eux. Parce que ça les rassure sur le fait que Dieu leur prodigue et leur prodiguera à titre personnel, pour leur quotidien, pour leurs difficultés personnelles, Dieu leur prodiguera tout ce qui est nécessaire pour vivre cet engagement difficile. Cet engagement chrétien qui est difficile, Dieu va donner tout ce qui est nécessaire pour le vivre victorieusement. Amen. On n'est pas sans ressources, et ce dans quoi on est engagé, c'est grandiose, et ça vaut la peine. Mais alors reste la question de la persécution. Est-ce que c'est un signe de déclin? Pourquoi est-ce que Paul dit, ne perdez pas courage à cause des afflictions que j'endure, elles sont votre gloire. Il dit, écoutez, les afflictions, la persécution qui m'arrive, c'est une perspective glorieuse. On dit, comment ça va être glorieux? Comment est-ce que la persécution, au lieu d'être un signe de déclin, peut être un signe de vitalité? Alors nous, c'est facile, on a l'histoire. On a le recul de 2000 ans d'histoire. Et comme l'a exprimé Tertullien, autour de 200 après Jésus-Christ, il a dit, le sang des martyrs est la semence des chrétiens. C'est-à-dire finalement, plus on en est à mort, et plus il en repousse. Vous plantez un grain de blé, ça donne un épi qui porte 100 grains. Vous tuez un chrétien, ça en fait repousser 100. C'est historiquement ce qui s'est passé. Et la persécution, au lieu d'avoir été le déclin de l'Église, a été son expansion. Et 2000 ans plus tard, le corps de Christ n'a pas disparu, ne s'est pas éteint, mais s'est multiplié et il continue de le faire. Oui, aujourd'hui encore, l'Église est persécutée dans bien des pays du monde. Et curieusement, au sein de cette persécution, les hommes et les femmes se tournent
vers Jésus-Christ. Un signe de vitalité. C'est vrai que c'était pas évident à comprendre, hein, ça. On se met à la place des Éphésiens, on se dit on est dans la tourmente, dans la persécution, on met l'apôtre Paul en prison, on va peut-être le condamner à mort, on va perdre tous nos têtes, oh là là! C'est difficile de s'imaginer qu'au contraire, ça allait être la raison même. C'est un témoignage puissant, pertinent, profond. Ça veut faire grandir l'Église. Et c'est ce qui s'est passé. Cela étant, chacun à son niveau dans la persécution, combat, doute, se décourage. Et nous pensons à nos frères et sœurs dans le monde qui aujourd'hui ont des pressions, ont des menaces, qui sont parfois agressées, dont certains membres de la famille ont été mis en prison, dont certains ont été assassinés. Oui, il y a de quoi se décourager. Oui, il y a de quoi peut-être même tomber en dépression. Et si nous lisons quelques-uns des témoignages de portes ouvertes, on n'a pas envie de continuer d'en lire tellement il y a de choses, de drames qui se passent contre l'Église et les chrétiens depuis des années. Alors, c'est pour cela que l'apôtre Paul arrive à ce passage. Il a dit, votre engagement, il n'est pas pour rien. Vous êtes engagé dans l'Église. Ça vaut vraiment la peine. Parce que le monde qui est divisé, fracturé, en conflit, en guerre, continuera de l'être. Sauf là où vous avez apporté la lumière. Sauf là où vous avez apporté la paix de l'Évangile. Sauf là où, à votre niveau, vous allez réparer qui est cassé. Vous allez rassembler ce qui est divisé. Alors nous voyons maintenant les quatre choses qui restent. Parce que là, il dit oui, quelle que soit la source de mon découragement, je peux ne pas perdre courage dans l'affliction. Alors pourquoi ? Première chose, c'est que je peux être puissamment fortifié par l'esprit dans mon âme. Peut-être j'ai le moral à zéro, peut-être je suis découragé, peut-être je suis déprimé. Eh bien oui, le Saint-Esprit, il est appelé dans la parole de Dieu aussi le paraclet. Ça a été traduit de différentes manières, le consolateur. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Esprit Saint. Consolateur, c'est paraclet. Ailleurs, c'est traduit par avocat. Le paraclet, c'est celui qu'on appelle à ses côtés. Donc, par exemple, un avocat, on l'appelle à nos côtés pour nous défendre. Un consolateur, on l'appelle à nos côtés pour nous consoler. Un défenseur, on l'appelle à nos côtés pour nous défendre. C'est celui qu'on appelle et qui se tient à nos côtés. Oui, le Saint-Esprit est celui qui se tient à nos côtés. Il est mon consolateur, il est mon défenseur, il est mon encourageur. Oui, le Saint-Esprit est vivant, il habite en moi, il tient à mes côtés et je ne suis pas seul face à mes problèmes. Je ne suis pas seul face à mes problèmes. Il y a le Saint-Esprit qui est côte à côte avec moi. Et il est agissant. Est-ce qu'il est agissant? Amen. Il est agissant. Et l'une de ses actions est de fortifier mon âme, d'empêcher la dépression de m'envahir et de gagner. Oui, il y a une force et une puissance qui viennent du Saint-Esprit en moi. Être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. commentez ce texte, vous allez vous rendre compte que cette espérance est une espérance à saisir. Si elle était automatique, Paul n'aurait même pas eu besoin de rédiger cette lettre. Si les chrétiens dans la tourmente et dans la persécution, dans les difficultés, dans l'affliction, automatiquement, ils baignaient dans l'espérance, dans la force du Saint-Esprit, dans l'amour de Jésus, dans tout, est-ce qu'ils auraient eu besoin qu'on leur écrive ces mots? Non. Ils en ont besoin parce que c'est une perspective réelle qu'on peut saisir. Et c'est à nous de la saisir. Le Saint-Esprit, lui, il est ce paraclet qui se tient à mes côtés, oui. Mais moi, est-ce que je me tiens à ses côtés? Lui, il est à côté de moi, mais moi, est-ce que je me tiens à côté de lui? Posons la question autrement, comment être puissamment fortifié par l'Esprit dans mon être intérieur? Voilà. Comment recevoir cette puissance et cette force qui vont dans mon cœur, dans mon âme, être un antipoison contre le découragement, contre la dépression? Comment recevoir ça? Comment le recevoir si je ne m'assois pas avec Jésus? Ça fait référence à une prédication didacte, hein, il y a 2, 3 ou 4 semaines. S'asseoir avec Jésus. C'était l'un des grands thèmes de l'Épître aux Éphésiens dans les chapitres qui ont précédé. S'asseoir, être assis avec lui dans les lieux célestes. Et comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse vous communiquer force, vigueur, contre le découragement, si je ne m'assois pas avec Jésus? Alors asseyons-nous avec Jésus. Nous le redisons, il dit qu'il ouvre, hein, c'est le chapitre 1, qu'il vous fasse réaliser, qu'il ouvre les yeux de votre cœur pour comprendre quelle est. Oh, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Vous avez remarqué ce mot? Quelle est l'espérance? C'est chapitre 1, verset 18. Et oui. Une espérance qui nous échappe. Une espérance qu'on peut saisir en s'asseyant avec Jésus. Le Saint-Esprit, il est à côté de moi. Est-ce que moi, je suis à côté de lui? Ah, qu'on puisse vraiment s'asseoir avec Jésus pour que le Saint-Esprit puisse enfin faire le travail qui lui est imparti dans notre vie. Qu'il puisse agir avec puissance, avec force, pour nous fortifier dans notre être intérieur, dans notre âme. Pour contrecarrer les motifs de découragement, des motifs de déprime. Le Saint-Esprit, il agit, si nous lui permettons d'agir. Habité par Christ, c'est la deuxième chose. Nous avons vu puissamment fortifié par son esprit, et au verset 17, il dit en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alors, oui, je peux vivre mes difficultés tout seul, ou bien Christ peut les vivre pour moi, en moi, avec moi. Et oui, je peux expérimenter toute la différence que ça fait lorsque Christ habite dans un cœur. Quand Christ habite dans un cœur, il distille, un peu comme une fleur distille son parfum, Christ distille en moi tout ce qu'il est. Comme il a marché, il m'oriente à marcher. Comme il a réagi, il m'oriente à réagir. Comme il a ressenti, il m'oriente à ressentir. Et Paul exprimait ce phénomène de la manière suivante, en Galates 2, verset 20, prenez votre Bible, en Galates 2, 20, j'ai noté la version Darby,
Et je le lis pour vous, il dit, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Galates 2, 20. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Voyez, il dit Christ habite en moi au point que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, il habite en moi, et il va vivre en moi, il va distiller en moi son parfum, sa nature, ce qu'il est, ce comment il pense, comment il réagit. Vous savez, nous, il nous arrive un truc au travail, là, paf, on va réagir. Alors on peut réagir à notre manière, moi tout seul, ou bien on peut de plus en plus laisser Christ vivre en nous, et c'est Christ qui va réagir à sa manière, et sa manière sera toujours une manière de vie. Ce sera toujours une manière qui prend un chemin qui construit. Oui, il y a un exemple vivant en moi. Christ habite en moi. Il y a un exemple vivant de sagesse, d'action, de réaction qui vient de lui à moi. Alors qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit pour le Saint-Esprit, oui, il y a une force et une puissance qui viennent de lui en moi pour me fortifier. Et oui, il y a un exemple d'action, de réaction, de ressenti, de pensée, de vie concrète qui viennent de Christ en moi. Mais, là encore, est-ce que j'invoque Christ ? Est-ce qu'il a libre quartier en moi ? Ou bien est-ce que je le contiens dans une chambre, hein, pour qu'il n'ait pas accès à toutes les pièces de la maison ? Peut-être cette chambre, c'est la chambre du dimanche matin. Là, il a accès. Je viens au culte. Christ a accès à ce morceau de la semaine. Est-ce qu'il a le droit de rentrer dans les autres pièces du lundi, du mardi, du mercredi? Quand je suis ici ou ailleurs? Quand je suis occupé à ceci? Quand je rencontre un tel? Et nos difficultés, nos problèmes, qui peuvent peut-être nous décourager, nous donner une lassitude. Peut-être qu'on se sent un peu perdu dans notre vie chrétienne. Comme les Éphésiens, on se dit, je ne sais plus trop pourquoi je la vis finalement, cette vie chrétienne. Je sais qu'elle est vraie, qu'elle est... Ouais, mais je peux le vivre seul, ou bien je peux faire en sorte que Christ le vive en moi. Nous arrivons à la troisième chose, pleinement aimé de Dieu en Christ. Ce sont les versets 18 et 19. Vous savez, l'une des choses qui fait tourner le monde, c'est la recherche de l'amour. Est-ce que il y a quelqu'un que ça n'intéresse pas d'être aimé? Ça m'étonnerait. On a besoin d'être aimé, de se sentir aimé. Et on recherche quelqu'un qui nous aime. Et c'est terrible quand on a le sentiment de n'avoir pas aimé, pas d'avoir été aimé par ses parents, par exemple. Quand on a le sentiment de ne pas avoir été aimé par son conjoint, qui peut-être nous a trompé, nous a cité, a fichu le camp, et puis on s'est dit, je croyais qu'il m'aimait. Et tous, nous aspirons à être aimés de quelqu'un que nous-mêmes on aime, que nous-mêmes on admire, à qui nous accordons une grande valeur. Et on dira, si une personne que j'aime, que je respecte, que je la trouve super, ah si cette personne pouvait réciproquement me trouver merveilleux, me trouver... m'aimer pour ce que je suis, me donner de la valeur, trouver du plaisir en moi, enfin, au point d'investir
sa vie. Au point d'investir sa vie.
Ah, j'aimerais trouver quelqu'un qui m'aime au point d'investir sa vie envers moi.
Alors oui, nous pouvons être aimés d'un conjoint. Nous pouvons être aimés de nos parents, de nos enfants, de nos amis. Mais il nous manque toujours un amour plus profond. Parce que on aime mal, parce qu'on est des pécheurs. Et parce que dans notre manière d'aimer, va toujours venir se greffer notre péché, notre égoïsme, notre ceci, notre cela. Et ce sont des blessures qui vont avec. Et quelque part au fond de nous, on dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'aimer pleinement? Eh bien oui. C'est ce que Paul invite les chrétiens à découvrir, découvrir qu'ils sont pleinement aimés en Jésus. Oh, que vous puissiez comprendre, dit-il, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous sommes appelés à découvrir combien nous sommes aimés de Dieu. Un amour dont les dimensions sont infinies. Un amour qui dépasse l'entendement. Et le message qui est fort ici, c'est que oui, cette conscience d'être complètement aimé par Dieu en Jésus, cette conscience d'être aimé peut m'envahir, peut m'inonder, peut m'illuminer, peut m'ébahir et peut me combler. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que ça ne veut pas dire que je peux être comblé, rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu? Oui, je peux, quand je m'assois avec Jésus. Et plus je m'assois avec Jésus, ressentir ce que je cherche dans la vie. Ce qui me trouble, souvent, parce que je cherche quelqu'un qui va m'aimer complètement. Au point d'investir sa vie. Eh bien, Jésus-Christ nous a aimés complètement et il a investi sa vie. Il est mort pour nous. Et la Bible nous dit, Dieu prouve son amour. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, on peut vivre des difficultés, on peut vivre des afflictions. Mais quand on a le support de quelqu'un qui nous aime, on ne le vit pas pareil. On peut vivre des problèmes, on peut vivre des choses, mais quand on a cette certitude d'être aimé par quelqu'un, alors c'est une grande force, c'est un secours à nos siens. Est-ce que Dieu désire communiquer à ses chrétiens dans la tourmente, peut-être au bord de la dépression, et dire, oh, oh, sachez, découvrez que vous êtes aimé, complètement aimé. Et oui, cette plénitude peut envahir notre cœur. Je sais que je suis aimé du Seigneur. Et ça me fait du bien. Et ça me tient. Waouh. Mais moi, est-ce que j'aime Jésus? Ah oui, lui-même. Lui-même. Il a donné sa vie. Mais moi, je l'aime. pour le Saint-Esprit, on dit, je tiens à mes côtés, et moi, je me tiens à ses côtés. Christ habite en moi, mais moi, je lui laisse toutes les siennes de ma vie. Dieu m'aime en Jésus. Et moi, je l'aime. Et enfin, nous terminons par cette dernière perspective au verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, surpris par la puissance de Dieu. Pour encourager, pour donner cette espérance, de la part de Dieu, Paul a rappelé plusieurs choses. Il dit, vous pouvez avoir un puissant psychologue à vos côtés, un puissant, une force, une puissance qui vous tient dans votre état d'âme, c'est le Saint-Esprit. Dans votre manière de vivre, de réagir, etc., qui est difficile, vous avez Jésus-Christ qui peut vivre en vous et s'exprimer en vous. Dans votre crainte, dans votre valeur d'être aimé, pas aimé, vous avez quelqu'un qui vous aime. Et vous pouvez ressentir son amour dans toute la plénitude, une plénitude qui peut vous envahir et vous tenir. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi ce que Dieu fait, ce qu'il accomplit. Et il peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors, ok, Dieu me donne la force, l'amour, pour soutenir face au découragement. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il agit pour me sortir de là quand même? Parce que j'ai des problèmes, hein, concrètement. J'ai des problèmes là. Est-ce qu'il va agir? Il va faire quelque chose quand même pour que... Est-ce qu'il peut faire? Je suis malade, est-ce qu'il peut me guérir? Je suis au chômage, est-ce qu'il peut me donner un emploi? J'ai des problèmes de famille. Est-ce qu'il peut rétablir les liens familiaux? J'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que Dieu peut intervenir? Paul dit, ben, ah oui, il peut intervenir, et il peut intervenir bien au-delà de ce que tu demandes, ou de ce que tu penses, de ce que tu peux imaginer. Tu as un Dieu tout-puissant, qui peut et qui va t'étonner. Et Dieu agit puissamment en moi, pour moi, par moi. Agir en moi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il a dit, par la puissance qui agit en nous. Agir en moi, ça signifie qu'il travaille mon cœur. Dieu agit en moi. Nous, souvent, on préférerait qu'il commence par agir pour moi. Seigneur, rends-moi l'argent que j'ai perdu. Commence notre petite liste de choses qu'on aimerait, qui nous pose problème et qu'on aimerait que ça se solutionne. Mais lui, il commence par agir en moi, c'est-à-dire dans mon cœur, à l'intérieur et pas forcément tout de suite à l'extérieur. Et ce travail de finesse qu'il a l'intention de réaliser en moi, certes, ça passe par des épreuves, mais ça a de quoi m'émerveiller au final. Parce que ça dépasse en fait mes demandes. Moi, ma demande, c'est Seigneur, pour moi, ce c'est fin. C'est une demande basique. Mais j'ai pas idée comment Dieu peut faire bien au-delà de me sortir de ce pétrin concret, matériel, qui m'enquiquine là. Non, il peut faire bien plus à l'intérieur de mon cœur. Dieu a un beau programme pour mon cœur, pour le nettoyer, pour le valoriser, pour l'embellir, pour faire de moi quelqu'un qui ressemble au parfait modèle, à Jésus-Christ. Dieu va agir en moi, bien au-delà de ce que je pouvais penser, imaginer, et ça vaut la peine. Agir en moi, c'est aussi me donner un autre regard. Parfois,
un regard totalement opposé à celui que j'avais au départ. Alors non, la situation n'a pas changé. Des fois, je me dis ça, c'est vraiment un problème, c'est pas possible, Seigneur. Je peux agir en moi pour que mon regard change. Et peut-être que la situation n'aura pas changé, mais mon regard aura changé parce que Dieu aura agi puissamment en moi. Mon regard, il aura viré à 180 degrés grâce à l'œuvre puissante que Dieu fait dans ma vie. Ouais. Mais il agit aussi pour moi. Ça signifie que Dieu, il tient les tenants et les aboutissants de ma vie dans sa main. Il peut ôter tel obstacle. Il peut solutionner tel problème. Il peut réaliser l'impossible. Il peut faire des miracles. S'il veut, il peut me guérir. S'il veut, tel problème qui me semble insoluble, il peut donner une solution qui tombe du ciel. On voit ça, ça tombe du ciel, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il veut ? Et il le fait aussi souvent que cela est bon pour moi. Dieu ne s'abstient pas de me donner ce qui est bon pour moi. Nous savons que dans des situations compliquées, Dieu peut agir pour nous et réaliser l'impossible, ouvrir des portes qu'on n'aurait pas cru ouvrables, parce que sa puissance peut faire infiniment au-delà de ce que je demande et ce que je pense. Alors Dieu agit en moi, d'abord, à l'intérieur, mais il agit pour moi, à l'extérieur. Et enfin, il agit par moi. Parce que celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, oui, Dieu agit par moi. Ça signifie que Dieu me fait l'honneur de m'engager à son service. Ça veut dire que oui, je suis utile dans ses mains. Oui, par moi, Dieu peut réaliser des choses incroyables en bénédiction pour tout un tas de gens. Est-ce que vous croyez que Dieu peut réaliser des choses incroyables par vous? Oui. Il peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Des fois, je traverse des situations, des choses, je ne vois pas les tenants, les aboutissants, je ne comprends pas. Mais Dieu, il a un plan où il veut m'employer et par cela, je vais être utile. Et Dieu va faire par ma vie, par ma situation, par mon contexte, il va faire une œuvre incroyable, qui va être en bénédiction pour les gens autour de moi. Il va aider tout un tas de gens autour de moi. Alors oui, je suis encouragé, car j'ai un Dieu qui peut faire infiniment plus que ce que je peux demander ou imaginer. Notre sœur Claudine, l'an passé, a eu des moments difficiles. Mais Dieu a d'abord agi en elle. Elle a commencé à témoigner de ça. Avant d'être guérie, avant quoi que ce soit, déjà, elle dit, Dieu a travaillé mon cœur, ça m'a rapproché du Seigneur, ça m'a fait voir les choses autrement. Il a agi en moi. Puis Dieu a agi pour elle. En la guérissant. Les quatre cancers qu'elle avait. Mais Dieu a aussi agi par elle. En témoignant à son médecin, au chirurgien, à tout le monde, en donnant des traités, des billes, ce que vous voulez. Et oui. En moi. Pour moi. Par moi. Et c'était un beau programme. Et c'était un beau programme. Je n'étais pas facile à passer. Mais Dieu nous dit, non, c'est pas facile à passer. C'est moi qui me chance. Ça vaut la peine. Et après,
on se pose la question, est-ce que finalement tu aurais préféré rester comme avant sans rien avoir vécu, sans que Dieu fait quoi que ce soit en toi, ni par toi, ni pour toi. On dit, oh non, je suis heureux d'avoir découvert mon Dieu qui peut agir infiniment au-delà de ce que je pense et ce que je demande. Alors, frères et sœurs, passons, s'il le faut, de la désespérance à l'espérance. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Éphésiens 1:18. Découvrir l'espérance qu'il y a en Jésus-Christ. Le pas entre les deux. Entre la désespérance et l'espérance, quel est le pas qui sépare les deux? Prenez Colossiens 1, verset 27, qui nous donne la réponse. Colossiens 1, 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Oh là là, c'est compliqué ça. C'est quoi ce mystère? C'est quoi cette richesse? À savoir, la réponse. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quel est le pas entre la désespérance et l'espérance? C'est Christ en moi. Pourquoi je termine par cette question? Est-ce que Christ est en vous? Est-ce que Christ est en vous? Est-ce que vous avez invoquer Jésus-Christ. On peut parler, nous l'avions déjà dit la dernière fois, on peut parler de Dieu. Il s'agit de parler à Dieu. On peut évoquer Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de l'évoquer, il s'agit de l'invoquer. C'est-à-dire de crier à lui, de nous adresser personnellement à lui, parler du fond de notre cœur. Enfin lui adresser la parole, l'invoquer, l'appeler. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu ne nous laisses pas sans espérance. Tout au contraire. Alors que, comme nous l'avons lu dans ces textes d'Éphésiens, précédemment, alors que nous étions dans ce monde sans espérance, tu es venu nous apporter l'espérance. Et Seigneur, tu veux ce matin nous montrer que peut-être oui, nous sommes découragés, déprimés, interrogatifs, dans le doute, lassés, fatigués, peut-être un peu en recul. Et tu veux nous rappeler que nous pouvons passer de cette désespérance à l'espérance. Pour ça, Seigneur, tu nous rappelles qu'il n'y a qu'un pas, c'est Christ en moi. Seigneur, je veux te prier, si quelqu'un n'a jamais encore invoqué, ne t'a jamais encore invoqué pour rentrer dans sa vie, la chambouler, la transformer, la sauver, qu'il puisse t'invoquer. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui te connaissent comme leur sauveur et Seigneur, qui t'ont invoqué pour être sauvé et qui marchent dans la vie chrétienne. Et pourtant, Seigneur, peut-être à un moment, nous sommes aussi lassés, fatigués, découragés. Interrogatif. Seigneur, que nous puissions tout à nouveau passer de la désespérance à l'espérance. En vivant Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que nous puissions, Seigneur, nous asseoir avec Jésus pour que le Saint-Esprit vienne faire son travail, pour nous donner cette force puissante dans l'âme. pour que toi-même, Seigneur, tu vives en nous, dans nos réactions, dans nos actions. Et Seigneur, pour que nous nous sentions pleinement aimés en toi. Tu vois notre cœur souvent qui souffre de ça. Oh Seigneur, que tu puisses inonder nos cœurs de cette conscience, de cette certitude, de cet ébahissement d'être aimé de toi. Et que cela, Seigneur, nous réconforte et nous relève. Tu nous communiqueras ça, Seigneur, lorsque nous viendrons nous asseoir avec Jésus pour te trouver dans les lieux célestes. Et puis, Seigneur, merci pour cette espérance que tu as un Dieu qui agit et qui fait l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, tu peux faire des miracles, tu peux nous envoyer des solutions qui tombent du ciel dans divers problèmes que nous rencontrons. Tu agis pour nous, mais tu agis aussi en nous. Et nous ne voulons pas oublier que tu veux aussi agir par nous. Par nous, comme tu as agi au travers de l'apôtre Paul, il vivait des souffrances, des afflictions, mais tu agissais par son intermédiaire. Et au sein même de cette prison, il était en bénédiction au monde. Alors Seigneur, que nous puissions nous asseoir avec toi pour vivre cette espérance bienfaisante qui nous revigore, qui nous redonne de l'énergie spirituelle, qui nous redonne la joie, la vigueur en toi. Je prie Seigneur pour tous mes frères et sœurs ce matin qui peut-être sont desséchés, afin qu'ils puissent entrer dans tout ce dont tu nous as parlé ce matin au travers des Écritures. Et que nous ne restions pas dehors, mais qu'on puisse témoigner de dire oui, le Saint-Esprit, celui qui m'a fortifié puissamment, oui. Jésus est celui qui m'a aimé complètement. Oui, Dieu est celui qui fait infiniment au-delà de ce que je pense et demande. Que nous puissions vivre, expérimenter ça et nous en réjouir ensemble. Au nom de Jésus. Amen.